Podcast sur la pédagogie de l'éducation musicale par Christophe Lazerge. Aujourd'hui, les hiérarchies en question. La question peut surprendre dans un blog dédié à la pédagogie et particulièrement la pédagogie de l'éducation musicale. Cependant, les articles présentés ici sont tous des invitations à se questionner sur des sujets peu ou pas abordés dans les cours de pédagogie. La notion de hiérarchie est évidemment très vaste et je ne prétends certainement pas faire le tour de la question, et encore moins donner des réponses. Je traiterai de trois domaines pour lesquels il me semble intéressant de s'interroger: la nature de la musique, les relations élèves-professeurs de musique et l'organisation d'une école de musique. Tout d'abord, les hiérarchies dans la musique. Les trois éléments constitutifs de la musique sont identifiés sans grande contestation comme étant le rythme, la mélodie et l'harmonie. Et Edgar Willems a décrit dans son dernier ouvrage « La valeur humaine de l'éducation musicale » des schémas relationnels divers et complémentaires dont je reprends ici quelques lois. Première loi évoquée, le rythme est inférieure à la mélodie, elle-même inférieure à l'harmonie. Dans la mesure où le rythme précède la mélodie, il a la priorité. Elle-même contient le rythme et précède l'harmonie. L'harmonie contient donc la mélodie et le rythme. C'est ce que Willems appelle la loi génétique matérielle. Une autre loi, une autre hiérarchie. L'harmonie serait supérieure à la mélodie, elle-même supérieure au rythme, dans la mesure où l'harmonie contient la mélodie et la mélodie contient le rythme. C'est ce que Willems appelle la loi d'intégration. Une autre loi, que Willems qualifie de loi génétique spirituelle, basée sur le fait que la mélodie est le centre de la musique. De ce point de vue, elle a la primauté, car elle porte les sentiments mis en valeur par le rythme et l'harmonie. La mélodie se trouve donc au centre, à la fois supérieure au rythme et à l'harmonie. Une autre loi, c'est la loi de continuité. Le rythme confine à la mélodie, car les variations d'intensité rendent perceptibles des harmoniques plus aiguës quand le son est plus fort, et inversement. La mélodie prépare l'harmonie quand elle est composée d'arpèges d'accords. Ainsi peut-on passer sans discontinuité du rythme à la mélodie et de la mélodie à l'harmonie. Enfin, une autre loi présentée par Willems, c'est le fait que le rythme, la mélodie et l'harmonie pourraient être présentés en cercle pour montrer l'interdépendance des trois éléments. En effet, le rythme influence la mélodie et aussi l'harmonie par l'infinité de variations possibles des appuis dans le temps. Il en est de même pour les deux autres éléments. Tout élément est tributaire du tout et influence le tout. C'est ce que Willems appelle la loi d'interdépendance. Ces multiples relations entre ces trois éléments constitutifs de la musique se retrouvent dans tous les arts. Par exemple, dans la danse, le corps, le mouvement et l'argument, ou dans la poésie, le mot, le vers et le poème. C'est ce qu'il appelle la loi d'analogie. Le simple énoncé des points de vue différents, coexistants et complémentaires des trois éléments constitutifs de la musique devrait suffire à mettre en doute la valeur supérieure de l'un d'entre eux par rapport aux deux autres. Quand, par-dessus le marché, Edgar Willems met en évidence le parallèle qu'on peut faire avec le triple aspect de la nature humaine, physique, affective et mentale, il devient évident que si une hiérarchie existe, elle est aussitôt compensée par son contraire. Alors, me direz-vous, quel intérêt y a-t-il à secouer comme ça le cocotier ? Eh bien, c'est déterminant pour l'éducation musicale. Car il s'agit d'équilibrer tous ces aspects pour qu'à travers une pratique plus harmonieuse de la musique, on contribue à une harmonisation de l'être humain. Ainsi, l'intelligence n'est pas la qualité la plus importante de l'être humain s'il est dépourvu de cœur et de corps. À l'opposé, la valorisation excessive des prouesses physiques et musculaires au détriment du cœur et de l'esprit ne favorisera pas une vie saine en société. Et que dire des relations humaines quand elles sont soumises aux élans fluctuants du cœur, tantôt joyeux ou tristes, ouverts ou fermés ? Il n'y a pas de hiérarchie absolue en musique, pas plus que dans la vie. Mais il y a des périodes ou des temps durant lesquels une des composantes prédomine, puis s'estompe au profit d'une autre. C'est le but de la pédagogie Willems, tendre à l'harmonisation de l'être humain par l'éducation musicale pour lui permettre de vivre plus heureux pour lui-même et en société. Je trouve qu'il y a pire comme objectif. La difficulté est de le réaliser comme professeur, car tout est relatif. Voyons maintenant les hiérarchies dans l'enseignement. J'ai souvent cité Jean-Charles Marouin, qui était directeur de l'école nouvelle d'Écully, en région lyonnaise, quand mes enfants y ont été. Il disait « L'école est le seul endroit où ceux qui savent interrogent ceux qui ne savent pas. » Il parlait, bien sûr, du système d'enseignement traditionnel à l'opposé duquel se situait la pédagogie « Éducation nouvelle », développée notamment par Roger Cousinet dans la mouvance de Maria Montessori et Célestin Freinet. La place de l'enseignant est clairement mise en cause dans cette phrase. Et je suis sûr que chaque auditeur trouvera dans sa propre enfance un souvenir de ce genre. Ce que prône l'éducation nouvelle est très proche de ce que prônait Edgar Willems, l'expérimentation avant la théorie. Dès lors, l'enseignant n'est pas seulement le détenteur du savoir. Il doit être un passeur de savoir, en créant le cadre permettant l'expérimentation progressive des éléments constitutifs de ce savoir. Et le professeur doit être animé par ce qu'il vit, car c'est ce surcroît de vitalité qui attire l'adhésion, parfois plus que la matière elle-même. On est toujours enclin à suivre quelqu'un heureux de partager sa passion. Évidemment, gare au gourou. Jacques Chapuis nous enjoignait d'être des allumeurs plutôt que des enseignants. Et pour ça, il fallait être, un minimum, allumé soi-même. Là encore, nous avons tous en mémoire dans notre enfance un professeur allumé que nous avons aimé et qui nous a fait aimer sa discipline. Jacques Chapuis disait également que l'enfant est supérieur à l'adulte dans ses potentialités d'évolution. Nous sommes bien dans notre sujet des rapports hiérarchiques. Faisant référence aux diverses lois concernant les relations entre les éléments musicaux, on comprend qu'il est profitable de multiplier les points de vue concernant les relations entre élèves et professeurs. Le professeur en sait plus que l'élève au plan des connaissances et de l'expérience pratique. De ce point de vue, nous pourrions dire que le professeur est supérieur à l'élève. L'élève, de son côté, osera plus que le professeur et expérimentera peut-être des voies censées conduire à des impasses qui pourront se révéler de bonnes trouvailles ou simplement renforcer son expérience et étayer ses connaissances. De ce point de vue, l'élève se trouve supérieur au professeur. Et il arrivera souvent que l'élève et le professeur collaborent, travaillent ensemble. Alors, le professeur et l'élève sont au même niveau. Et il faut cultiver tous ces modes relationnels pour que l'élève et le professeur s'épanouissent ensemble. C'est la loi d'interdépendance de Willems. Voyons enfin les hiérarchies dans l'école de musique. Je ne connais qu'une école de musique qui fonctionne depuis bientôt 40 ans avec un modèle coopératif. C'est l'école Syrinx de Salamanca, en Espagne, avec aujourd'hui environ 400 élèves pour 20 professeurs. La direction est collégiale depuis le début, et chaque département pédagogique a un coordinateur. Ça suppose beaucoup de réunions et des professeurs très engagés dans le projet global de l'école. Je pense que l'école Musicant à Barcelone, en Catalogne, fonctionne un peu comme ça aussi, mais avec une directrice fondatrice, Eulalia Caso y Samso, clairement responsable du projet. Je me suis approché de ce modèle pendant une dizaine d'années à Rimea, entre 1995 et 2005 environ. Je me sentais alors davantage coordinateur et responsable administratif que directeur. C'est devenu beaucoup plus compliqué, voire impossible, quand j'ai voulu imposer un travail plus collégial à, entre guillemets, mes professeurs. La collégialité ne se décrète pas. Elle se construit de l'intérieur et suppose des professeurs partenaires et impliqués dans le projet global. Elle nécessite toujours beaucoup de réunions et d'échanges entre les uns et les autres. Dans un sens, j'avais trop de volonté, donc trop de tête, et pas assez de cœur, sans doute. Je dis ceci sans amertume et sans reproche pour les professeurs avec qui ça n'a pas marché. Je veux seulement témoigner de mon expérience en espérant qu'elle soit utile à d'autres encore en activité. Aujourd'hui, je me positionne clairement contre les rapports hiérarchiques monolithiques de longue durée. Les responsabilités doivent souvent être dans les mains d'une seule personne, dans une institution. Mais les décisions qu'elle prend doivent être concertées et les rôles doivent tourner entre les différents acteurs. Il est normal que tous n'aient pas les mêmes compétences et que ceux qui en ont davantage dans un domaine les mettent au profit du projet collectif. Mais il n'est pas souhaitable qu'ils soient toujours leaders. Si la concertation est permanente, ils peuvent apporter leur contribution sans nécessairement être hiérarchiquement supérieurs. Pour conclure, je suis souvent surpris par la force d'analyse des schémas de Willems, en particulier la loi d'analogie, qui m'ont longtemps fait croire que, grâce à eux, j'avais réponse à tout. C'est souvent vrai, non pas qu'on détienne une vérité en les utilisant, mais parce qu'ils sont une source de questionnement. Et c'est en cherchant à démêler ces questionnements qu'on trouve des réponses, mais qui sont seulement provisoires. Comme tous mes articles, vous pouvez contribuer à la réflexion en postant vos commentaires sur le site de pidgeekey.fr. Ils sont ensuite traduits en espagnol et ajoutés à la page correspondante. Sur le site, cet article comprend des liens, notamment sur l'historique de la pédagogie nouvelle. Je vous remercie pour votre écoute. Et à bientôt !